C'est l'état d'urgence.
Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire.
Il y a quand même beaucoup d'interdictions de manifestations, hein.
L'état d'urgence signifie l'abandon de l'état de droit. Nous combattons la démocratie avec les armes de la République.
La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Nous devons avoir la ville à notre disposition, la passer au crible et interroger tous ses habitants.
C'est l'état d'urgence.
Et ça dure, et ça dure, et ça dure 87 jours exactement que ce pays est sous état d'urgence. 87 jours que c'est la fête aux flics qui cassent des portes. À qui mieux mieux, au nom de notre sécurité soi-disant. 3289 perquisitions administratives, saisies de 560 armes, dont 42 armes de guerre, 341 gardes à vue, 571 procédures judiciaires ouvertes et 407 assignations à résidence. Seulement 5 procédures terroristes, antiterroristes nous rappellent le monde. Et on nous dit jamais mais combien de perquisitions ratées, combien de personnes dont des gardes à vue qui n'ont rien donné, combien de personnes, tout cela, qui n'avaient rien demandé à personne et qui se retrouvent prises dans un engrenage assez pernicieux, celui de l'état d'urgence. Et en ce moment même, il s'agit de le renouveler et d'intégrer à la Constitution les principes mêmes de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité. Deux petits articles, 200 amendements, 900 députés et sénateurs réunis depuis vendredi pour faire le sale boulot, sans que réellement il y ait une mobilisation dans le pays contre cet état de fait. Le premier article proposé, c'est assez simple, c'est l'état d'urgence qui devrait être, attention je cite, déclaré en Conseil des ministres sur toute ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Calamité publique, à mon avis, ça c'est une invention qu'on va aimer. Qu'est-ce qui est une calamité publique? Alors, c'est le cas actuellement, c'est le Parlement qui pourra proroger l'état d'urgence et ça va continuer au-delà de 12 jours, et ça risque de continuer encore aujourd'hui. Alors l'autre, c'est la déchéance de nationalité. On en a beaucoup parlé, chiffon rouge agité sous nos yeux pour désigner encore une fois l'étranger à la vindicte générale, et ça marche plutôt bien, comme on a pu encore une fois le voir ce week-end à Calais, où les fachos ont défilé sans crainte, appelant à la haine. Et d'ailleurs, vindicte générale, ils ont réussi à placer un général suffisamment en avant pour qu'il se fasse arrêter. Je pense que c'est une opération de communication. Un ancien général de la Légion étrangère, bien mal nommé Légion étrangère, où il s'agit plus de casser l'étranger que d'accueillir l'étranger. En tout cas, Calais va devenir le paradigme de l'hystérie contre l'étranger. Alors on va aussi parler féminisme aujourd'hui avec un petit son sur Sylvie Tissot qui parle de son film sur Christine Delphi. On parlera aussi social avec une lutte victorieuse, celle des postiers de Neuilly. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut en parler d'une lutte sociale victorieuse, surtout en ce moment. En attendant, une vieillerie qui requinque, ça crache, ça crachote. C'était sur un vinyle, c'est passé sur une cassette et puis dans l'ordi. Autant vous dire qu'on en a perdu des bouts entre temps. C'est Santa Claus, c'est J'en appelle à la fête.
J'en appelle à la fête, j'en appelle à la joie, j'en appelle à la fête et à la liberté, j'en appelle à la fête, à l'amour, à la foi, j'en appelle à la fête, mais il faut la gagner. Si tu sens sous ton ventre se dresser la colère, tel l'orage qui gonfle et s'épanche en tonnerre, ne calme pas surtout les feux de ta furie, mais raisonnablement cours chercher ton fusil. J'en appelle à la fête,
par des falaises, l'armée des palupiers engendre des misères, bousculera ses liens sous l'impact des colères. J'en appelle à la fête, j'en appelle à la joie, j'en appelle à la fête et à la liberté. J'en appelle à la fête, à l'amour, à la foi. J'en appelle à la fête, mais il faut la gagner. Avant de t'engloutir dans cet enfer moderne, où que le bleu clouté ne charge et ne te saigne, élève autour de toi plus sûr que des barreaux un réseau conquérant de concepts nouveaux. J'en appelle à la fête, j'en appelle à la joie, j'en appelle à la fête et à la liberté. J'en appelle à la fête, j'en appelle à la fête, mais ils vont la gagner. Comme coule le fleuve, sans contre-courant, arrachant au passage les rocs résistants, gagne ton embouchure et ne t'ensable pas dans les berges vaseuses du grand calme plat. J'en appelle à la fête, j'en appelle à la joie, j'en appelle à la fête et à la liberté. J'en appelle à la fête, à l'amour, à la foi. J'en appelle à la fête, mais il faut la gagner. Tel oiseau migrateur, fonçant droit sur le sud, applique jusqu'au bout tes lourdes certitudes. Que crèvent les pillards, les censeurs qui brûlent notre vie et polluent notre cœur. J'en appelle à la fête, j'en appelle à la joie, j'en appelle à la fête et à la liberté. J'en appelle à la fête, à l'amour, à la foi. J'en appelle à la fête, mais il faut la gagner. J'en appelle à la fête, j'en appelle à la joie. J'en appelle à la fête, à l'amour, à la foi. J'en appelle à la fête, mais il faut la gagner. J'en appelle à la fête, j'en appelle à la joie. J'en appelle à la fête et à la liberté. J'en appelle à la fête.
Voilà, Santa Claus, j'en appelle à la fête, c'est pas dénué d'intérêt, ça crachote, ça souffle, mais c'est quand même bien sympa. Bon, avant de parler de choses qui fâchent, et pour rester sur cette petite pointe d'optimisme qu'on avait dans cette chanson quand même, hein, aller chercher son fusil raisonnablement, que crèvent les pillards, les flics et les censeurs, tout ça est une pointe d'optimiste. Une invitation pour le 14 février. Et oui, qui va s'occuper de vous le 14 février? Le front du lundi. Bon, c'est la Saint-Valentin, mais si vous avez pas de Valentin ou de Valentine, vous n'avez rien à faire, vous pouvez nous rejoindre. Après 17 heures de radio contre les violences d'État, le 17 octobre 2015, le front du lundi a décidé de remettre le couvert. Alors on avait regretté un petit peu sur le truc précédent, qu'on avait trouvé quand même assez chouette, on va dire, d'avoir manqué de temps pour préparer collectivement ça. Alors du coup, on a envie de remettre le couvert, de refaire quelque chose, un événement pas que radiophonique, une émission de radio un peu qui fait événement, et on veut le faire avec plus de gens, ou en tout cas dans une dynamique plus collective. C'est à ça que ça sert de faire la radio, c'est faire du collectif. Donc on vous invite le lundi 14 février à 14h, et ben on a commencé à poser des jalons, et ben on propose de faire ça autour du 21 septembre 2016, ça sera les 15 ans de l'explosion de l'usine AZF. Donc on a envie de partir de cette explosion-là comme un point de départ qui nous mène sur des pistes un peu différentes, hein, que ce soit les usines de mort, civiles et militaires. Alors la mort civile, bah, c'est les pesticides que faisait AZF. Pardon, c'est les pesticides que faisait AZF. Et les morts militaires, c'est aussi qu'on oublie trop souvent que AZF a aussi participé à cette grande chaîne industrielle de la production militaire sur Toulouse. Et donc voilà, et puis les explosions militaires, effectivement, on en a plein. Donc on pourrait partir autant sur l'industrialisation l'industrialisation de l'agriculture que sur l'industrialisation de la mort, aussi sur ce qui s'est passé le 21 septembre 2001 à Toulouse, parce que souvent on oublie ce qui s'est passé, c'est un vieux souvenir, on garde, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas eu juste 31 morts, il s'est passé d'autres choses dans la ville, et puis il y a aussi tout ce qui tourne autour de ces quartiers populaires, si proches de l'usine, etc., etc. Donc voilà, autant vous dire qu'on voit large, ça reste un point de départ, qu'on a envie de partager, et pour le partager avec nous, et ben c'est le 14 février, c'est à 14h et c'est à Canal Sud, au 40 rue Alfred Duméril.
Et c'est un dimanche, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, tu as annoncé un lundi 14 février.
Ah bon ?
En fait, c'est un dimanche. Lundi.
Ouais. Mais en fait, il y a plusieurs lundis dans la semaine. À partir d'aujourd'hui, ça va changer.
Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il y a plusieurs dimanches dans la semaine.
Ah là là, feignant, chômeur, va, chômeur. Bon, et si vous êtes chômeur, d'ailleurs, je crois qu'il y a une occupation Pôle emploi en cours depuis midi. En tout cas, il y a un mouvement dans les Pôles emploi. Parce qu'on va passer à des choses qui fâchent avant de passer peut-être à des choses plus intéressantes. Voilà, il y a cet événement, c'est le dimanche 14 février, 14h à Canal Sud. On vous attend, vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez au moins rencontrer l'équipe du Front du Lundi au grand complet, en tout cas, on espère. En tout cas, pour l'instant, on va reparler de choses qui fâchent et bien sûr d'état d'urgence. L'état d'urgence, l'état d'urgence. Il y a des tas d'urgence et l'état d'urgence les masse bien. En tout cas, c'est bien pratique pour renforcer le flicage. Vous allez me dire, bah oui, ça sert à ça. Mais oui, mais c'est il y avait une tendance lourde, on va dire, au flicage de la population, qui est accentuée et on s'agite devant les choses les plus visibles, hein, les militaires dans la rue, etc. Puis on voit pas ce qui se passe en sous-main. Alors la SNCF, par exemple, un grand spécialiste en matière de cherche en la matière de flicage, cherche à éteindre la lutte contre, je cite, alors c'est très beau, les incivilités, les atteintes à la sécurité publique et les actes terroristes. Donc voilà, un bel amalgame allant du mauvais mot envers l'employé jusqu'au canardage en règle. Donc le fraudeur, le terroriste, tout ça c'est pareil, en tout cas c'est la même loi. Il s'agit d'élargir le pouvoir des flics de la SNCF. Alors vous les connaissez sûrement, ça ressemble à des flics, ça a la gueule des flics, mais ce n'est pas des flics, c'est un peu le Canada Dry des flics. Mais justement, il s'agit de leur octroyer encore plus de pouvoir de contrôle, de papier par exemple, de fouiller ou de retenir les gens pendant 30 minutes. Ils pourront aussi puiser dans les fichiers maison pour identifier leurs proies. Donc voilà, les flics de la SNCF vont encore avoir plus de droits. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, après les paraflics de la SNCF, ce sont les militaires de l'opération Sentinelle que vous voyez partout là, qui commencent à pleurnicher un peu parce qu'ils se sentent un peu potiches. Et oui, ils n'ont pas le droit de faire grand-chose, les pauvres. Et ils verraient bien leur pouvoir accru. Alors pour l'instant, ils n'ont pas vraiment de latitude pour tirer au pigeon, mais ça pourrait changer puisque selon la prochaine réforme du code pénal, ils devraient pouvoir tirer en dehors de la légitime défense comme les flics. Donc ça, c'est un truc qui passe un peu en sous-main. Ça a été décidé au Conseil des ministres du 3 février. Et donc les militaires pourraient un peu plus participer au maintien de l'ordre, en dehors donc des militaires déjà présents comme les gendarmes ou les gardes mobiles, mais les militaires en kaki, quoi. On n'avait pas vu ça depuis la guerre d'Algérie, donc on revient en arrière à des époques qu'on disait sympathiques, quoi. Alors, à chaque fois qu'on parle de sécurité, en fait, il y a toujours un volet un peu répressif, on va encore avoir plus le droit de vous taper dessus, et puis il y a une surenchère technologique, parce qu'en plus, et on revient à notre idée de départ, c'est quand même une grosse entreprise, tout ça, et donc il y a toujours une petite surenchère technologique. Et les troufions rêvent de nanodrones, par exemple. Ils aimeraient bien avoir avec eux des petits nanodrones, c'est-à-dire des moineaux avec une caméra, comme ça, qui pourraient se balader autour d'eux. Ils se voient bien, comme ça, avec le droit de tirer, et puis des nanodrones. La SNCF s'équiperait de portiques qui pourraient avoir une reconnaissance 3D, qui reconnaîtrait les gens qui passeraient sous le portique, et qui pourraient sonner en cas de fraudeur habituel. Ça serait vraiment génial. Voilà, l'état d'urgence approfondit nos tendances sécuritaires de ce pays, mais... vu qu'on a une population qui est quand même, on va dire, qui sait participer à ce genre de choses, les crèches y sont mis aussi, c'est passé relativement inaperçu, c'est pour autre chose, on va dire, c'est pas pour du flicage, mais c'est une sorte de flicage, c'est un système de pointage électronique dans toutes les crèches de la Haute-Garonne qui devait être équipé au 1er janvier 2016. Il s'agit de faire des économies, parce que c'est la CAF qui paye la douloureuse. Alors, si les crèches déclaraient parfois 10 heures pour un bambin qui venait seulement 8 heures, vous comprenez le manque à gagner pour la CAF. Alors c'est pour notre bien tout ça. Grâce à ce système, au lieu d'accueillir dans une crèche 20 enfants 10 heures par jour par exemple, on peut trouver de la flexibilité et en accueillir 30. Des parents en recherche d'emploi ou à temps partiel qui ne pensent pas pouvoir laisser leur enfant peuvent le faire pour quelques heures par jour. C'est un changement d'approche. C'est Florence Cotineau de la CAF qui nous explique. Donc le flicage, c'est pour notre bien, c'est toujours pareil.
C'est vrai qu'il y avait besoin de puces électroniques et de tout ça pour... pour avoir cette souplesse.
Mais ouais, c'est là pour l'instant ils bipent. Alors bientôt, je pense que de toute façon la marche, c'est un truc. Ils vont vendre des fringues pour enfants avec le bip intégré, avec toute une série de possibilités. Tu peux l'inscrire à la crèche direct, la puce RFID quoi. Donc c'est vraiment génial. Et de toute façon, c'est toujours pour notre bien. C'est comme les caméras qui fleurissent partout dans la ville, c'est pour nous sauver la vie. On l'a vu très récemment dans un article de la Dépêche où la mairie se gaussait d'avoir pu sauver la vie d'un SDF grâce aux caméras de vidéosurveillance et aussi en passant arrêter la personne qui lui avait fait les poches. Alors là, on se dit, ouais, c'est trop bien la vidéosurveillance, devenue vidéoprotection évidemment. Et surtout, c'était ce cher délégué à la sécurité de Toulouse, monsieur Arsac, qui nous disait de toute façon les gens honnêtes n'ont rien à craindre de la vidéosurveillance. Les gens honnêtes, donc allez, on s'écoute un petit truc sur ces caméras de vidéosurveillance. C'est comme au cinéma. J'habite ici et je vois chaque jour mourir la ville que j'aime. Toulouse devient une autre, plus moderne, plus chic, plus soumise que jamais à une logique de la marchandise, plus que jamais habitée par une bourgeoisie sûre de ses droits et de ses privilèges. Petite réflexion entre deux coups de pioche. Comme au cinéma. J'ai 40 ans et je me souviens pas très bien de l'époque où il n'y avait pas de caméra. Mais j'ai un vague souvenir que c'était un truc de science-fiction. Les caméras étaient énormes et chères. On enregistrait sur des bandes. C'était pas quelque chose de très répandu. Je crois que les premières sont apparues dans les banques. Je m'en souviens parce qu'on voyait dans les films que les caméras étaient un ennui pour les gangsters. En plusieurs, il y avait des procédés ingénieux pour berner la caméra. Je me souviens d'images pourries, en noir et blanc, parfois un peu vertes, mais comme brouillées en permanence. C'est dans les années 70 que les Britanniques développent l'usage des caméras. La France s'y mettra progressivement. Le métro de Paris va être le premier à être équipé en 1976. Ça ira plutôt lentement. Balkany, à Levallois-Perret, sera le pionnier de cette affaire au milieu des années 90. En 94, Pasqua, sinistre de l'intérieur, qui a marqué son temps, avait passé une loi pour généraliser l'usage de la vidéo. Après, ça s'accélère méchamment. En 2007, on comptait 340 000 caméras dans l'espace public. Ali Omari, la pote à Ben Ali, voulait alors accélérer la cadence. C'est le second âge de l'installation des caméras. Et on parle de 25 000 à 30 000 installations de systèmes par an. Qui se rappelle aujourd'hui que l'installation de caméras dans l'usine Braff d'Ambron avait déclenché une grève. Il s'agissait bien de conditionner des comportements, de traquer. En 95, il y a eu une forte contestation de caméras. Je me souviens que pendant les manifs, on était un certain nombre à s'être donné le mot pour en saboter quelques-unes au passage. Et puis, elles ont commencé à proliférer. Mais on a eu toujours plus. Dans la rue pour la circulation, dans les magasins, sur les guichets automatiques pour la sécurité, même chez les particuliers, dans des immeubles. On peut faire son propre système connecté sur son ordiphone. Le plus dingue, ça a été le métro toulousain. Sans déconner. Je connais pas un métro qui ait autant de caméras. Pour une entrée de métro, on peut compter 20 caméras, parfois plus. Au bas mot, il y a 600 caméras installées dans le métro toulousain, dont un bon paquet filme la rue autour des stations. Dans le bus, il y a des caméras. À l'entrée des lycées, il y a des caméras. À l'université, il y a des caméras. La nécessité de la sécurité s'est diffusée pour le moindre espace privé ou public. La recrudescence des vigiles, c'est pareil. Il est devenu normal d'arriver dans un bar et qu'un mastard vous ouvre la porte. Pourtant, c'est devenu comme un décor qui ne choque plus. On s'habitue à tout et à ça sans trop de problèmes. C'est vrai que les vigiles, les caméras, les antivols électroniques n'empêchent pas de voler dans les magasins ou de frauder le métro. Voici quelques années que le débat sur les caméras est revenu sur des bancs de la scène.
un truc complètement dingue, genre, faut-il des caméras à Toulouse ? Mais il y en a déjà partout. Ah ouais, mais là c'est différent. Il s'agit plus de donner à la police municipale des yeux permanents que de faire tourner des magnétoscopes. Pour l'occasion, la vidéosurveillance se rebaptise vidéoprotection. Et on nous sort le compte que, en fait, c'est pour sauver des gens. Personne n'y croit vraiment. Même pas ceux et celles qui emploient cette nouvelle langue. L'essentiel est de faire oublier qu'il y a déjà des caméras partout, que ça ne règle rien, mais ça permet de faire des arrestations, et que ça, c'est du bon. La ville ressemble de plus en plus à un supermarché, des vigiles, des caméras. Il manque plus que des portiques sécurisés pour que le tableau soit complet. Tapis dans un coin de Toulouse, il y aura des agents municipaux directement branchés sur le commissariat qui vont scruter les comportements des unes et des autres. Enlevé à la ville, ses rues sombres et son anonymat, on se demande ce qui va lui rester. La vidéosurveillance révèle le projet de domestication des comportements. Personne ne croit que la délinquance va baisser. Mais par contre, le pouvoir va se rendre présent, canaliser les flux et scruter les habitudes. Mais bien sûr, si on n'a rien à se reprocher.
Drôle de monde, on a du mal à y voir clair. En tout cas, ce qu'on voit bien se dessiner, c'est la consolidation d'un consensus raciste et islamophobe. Et ça, c'est plus que patent. Alors bien sûr, hein, ce qu'on a vu à Calais samedi, et ce qu'on a vu et revu et toujours vu, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous montrer cette zone-là en nous montrant les gens excédés comme si c'était des citoyens ordinaires, alors qu'on a une belle brochette de fachos. Par exemple, on nous dit un général s'est fait arrêter, mais c'est surtout un militant facho, et c'était appelé par Pegida, cette affaire-là au niveau international, et en France, surtout par les identitaires et consorts.
Donc faisait partie le riverain excédé de la dernière manif de No Border, qui sortait sa carabine.
Son fusil, ouais.
C'est pas n'importe quel riverain excédé non plus, quoi.
C'est ça. C'est pas n'importe quel riverain excédé. Et en tout cas, maintenant, c'est légitimé par aussi tout ce qu'on entend sur les ondes, ce qu'on entend un peu partout. Alors, par exemple, on entend Philippe Devilliers à des heures de grande écoute, sur France Info, nous dire que si tous les musulmans ne sont pas islamistes, alors on entend des terroristes, islamistes, terroristes, tous les islamistes sont musulmans.
Voilà, alors ça c'est fait, ça c'est dit, hein, et personne va lui dire « Non mais quand même, vous exagérez peut-être un peu, c'est le fameux amalgame, hein, il fallait pas faire d'amalgame, etc. » Bon, visiblement, alors c'est aussi Finky, hein, Finkielkraut, notre inénarrable immortel, le mardi 29 décembre sur France Culture. Cette fois-ci, là aussi, à une heure de grande écoute, il va être au journal et à la grande table, c'est-à-dire entre midi et 2h, qui nous sert un raisonnement étrange, où il va mobiliser un penseur de la nouvelle droite, ce cher Julien Freux, et un penseur nazi pour nous fustiger les antifascistes. Ça, c'est très bien, hein, voilà, l'extrême droite contre l'antifascisme, parce que le problème aujourd'hui en France, ce qui bloque la pensée, hein, et notamment la pensée de Finkielkraut, c'est ce terrible fait que tout tour, on l'accuse d'être raciste, voire fasciste, le pauvre, hein, pauvre chouchou. Et pourtant, je pense qu'il n'aurait pas désavoué quelques jours plus tard, Badinter, Elisabeth, qui le 6 janvier nous dit, cette fois-ci lors de la matinale de France Inter, il ne faut plus avoir peur d'être traité d'islamophobe. Voilà, ça s'est dit encore une fois, tout le monde, bah, personne ne contredit... ces charmantes petites allocutions dispersées de ci, de là, et ce consensus raciste, ce qui fait que bon, bah, on se rend même pas compte de qui vise exactement l'état d'urgence. On oublie que ces 3800 personnes qui sont fait péter les portes ont toutes au moins le soupçon d'être musulmans. Quelques-uns, quelques-unes ne l'étaient pas, mais c'est bien parce qu'on les soupçonnait de l'être qu'ils ont été attaqués.
L'islamophobie d'Elisabeth Badinter, c'est de l'islamophobie de gauche quand même. C'est plus respectable.
Ah oui, mais c'est ça qui est bien, c'est l'islamophobie, c'est de gauche et de droite.
C'est pas du racisme là, du coup.
Non, c'est ni gauche ni droite. Hein. C'est un peu... Non, mais c'est du socialisme national.
Ah bah oui, voilà.
Voilà, c'est du socialisme national. C'est bien le socialisme national, c'est à la fois une vision sociale et nationale.
Ouais.
Hein, mais ça me rappelle un truc.
Je vois pas.
Non, socialisme et national. Non, un truc peut-être. Ou national-socialiste peut-être.
Ah oui, national, dans ce sens-là. Ouais, c'est ça
me
fait
penser à un truc. Voilà. Mais bon, après, on va nous dire, ouais, les points Goldwyn, machin, etc. Ouais. Donc, on va pas le faire, on va pas aller jusque-là, ça se passe chez nous. Voilà, c'est vraiment la merde. Alors, on a envie, dans ce monde pourri, de vous faire entendre un peu autre chose. On a à cœur de vous donner cette bulle d'air. Tout de suite, voilà, on part avec sur une petite bulle d'air. C'était mardi 19 janvier, c'était au hangar, c'était l'ouvreuse qui recevait Sylvie Tissot pour son film réalisé avec Florence Tissot, sa sœur, sur et avec Christine Delphi. Ça s'appelle Je ne suis pas féministe, mais ça a été fait en parallèle d'un abécédaire et c'est une grande bouffée d'air dans ce moment un peu saturé que nous vivons. Alors Christine Delphi, sociologue féministe, pour la présenter, on pourrait donner son âge ou ses ouvrages, je n'en ferai rien, je vais laisser Sylvie Tissot en parler, et vous trouverez bien ça par vous-même. Je vous livre une phrase de Christine, de la grande Christine, parce que ça fait du bien d'entendre ça. Ce que seraient les valeurs, les traits de personnalité des individus, la culture d'une société non hiérarchique, nous ne le savons pas. Et nous avons du mal à l'imaginer. Mais pour l'imaginer, il faut déjà penser que c'est possible. C'est possible. Les pratiques produisent des valeurs, d'autres pratiques produiraient d'autres valeurs. Peut-être est-ce cette difficulté à dépasser le présent, liée à la peur de l'inconnu qui nous bride dans nos élans utopistes comme dans nos progrès sur le plan de la connaissance. Pourtant, les deux sont nécessaires l'une à l'autre. Que l'analyse du présent soit nécessaire à la construction d'un autre futur, point n'est besoin de le démontrer. Mais ce qui est moins reconnu, c'est que l'utopie constitue l'une des étapes indispensables à la démarche scientifique. Or, ce n'est qu'en imaginant ce qui n'existe pas que l'on peut analyser ce qui est. Car pour comprendre ce qui est, il faut se demander comment cela existe. Et pour se demander comment cela existe, il faut se livrer à deux opérations. La première, supposer qu'on ne connaît pas la réponse, même si on croit la connaître. La deuxième, c'est supposer, même si c'est contraire à l'évidence des sens, que cela pourrait ne pas exister. On écoute Sylvie Tissot, c'était le 19 janvier au hangar, et elle nous parle de son film « Je ne suis pas féministe, mais » et de Christine Delphi.
C'est une longue histoire qui a commencé par ma rencontre avec Christine en 2003. Alors peut-être que vous l'avez compris dans le film, à l'occasion des mobilisations contre la loi de 2004. sur l'interdiction des filles portant le foulard des établissements scolaires publics. Et on s'est rencontrés dans ce contexte-là, donc dans un contexte militant et pas dans un contexte universitaire, parce que moi je suis sociologue aussi, comme on le dit au début du film, sociologue et féministe, mais on ne s'est pas rencontrés dans ce contexte, je pense que ça se ressent aussi sur le film. Bah, l'idée traînait un peu de faire un abécédaire de Christine Delphi, c'est-à-dire un long entretien filmé avec des entrées par des lettres et donc par des mots, parce qu'on pensait bah, déjà pour le contenu de ce qu'elle pouvait raconter, puis aussi par sa manière de le raconter. Puis l'idée a traîné, c'est pas concrétisé jusqu'à ce que, en fait, je propose à Florence, donc ma sœur, de s'embarquer dans ce projet-là. Et c'est elle qui a eu l'idée, une très bonne idée, je pense, de dire que oui, elle voulait bien faire l'abécédaire de Christine Delphi, mais de faire un autre film, un deuxième film, donc le film que vous venez de voir, qui est un portrait, donc de 52 minutes, qui est le format plutôt télé. Et d'en faire quelque chose de très accessible, hein, donc qui puisse être vu par des gens qui sont pas féministes, pas militants, pas sociologues, qui connaissent pas tout ça, et donc d'en faire, donc comme j'en exprime le vœu dans le film, un outil militant. Le premier repérage qu'on a fait chez elle, c'était en 2012, et après les tournages en 2013, 2014, pour terminer le film en mars dernier. Puis on a essayé un petit peu, pas très longtemps, d'aller démarcher des boîtes de prod. Et puis on s'est rapidement aperçu que le féminisme n'est pas le sujet le plus vendeur qui soit, que Christine Delphi n'était pas l'actrice la plus bankable du moment. Bon, après, c'est instructif, hein. Moi, je me souviens d'une conversation avec quelqu'un, justement, représentant d'une institution à qui on demandait de l'argent. Il nous disait « Oui, mais quand même, dans votre film, est-ce que vous allez parler des hommes présents dans le mouvement féministe ?» Ah bon, alors après, je ne sais plus qui, vous avez dit aussi « Oui, mais quand même, votre projet de film, c'est intéressant, mais c'est un peu ghetto. » Parce qu'il devait y avoir trop de femmes, quoi, dans le projet. Enfin voilà, donc c'était à la fois assez rigolo d'entendre ce genre de truc et assez désespérant, quand même. Mais... Bon, au final, ce qui était bien, c'est qu'on a quand même trouvé des alliés aussi, ça c'est quand même encourageant, on a quand même trouvé des alliés aussi au sein des institutions qui nous ont soutenus, et qui nous ont soutenus aussi pour le féminisme qu'on essaye de représenter et de promouvoir. Donc ça, et ça c'est encourageant, parce que je pense que si on fait le bilan, je sais pas si on peut faire le bilan des 10 dernières années, mais je pense qu'on a quand même le rapport de force, il a quand même changé. C'est-à-dire par rapport à 2003 ou 2004, on était quand même super minoritaire. Je crois en tout cas dans le milieu féministe, les choses ont changé. Enfin, j'espère. Et donc, on s'est monté en association de production. Donc c'est l'association Les Mots Sont Importants, qui prolonge en fait un site qui s'appelle Les Mots Sont Importants. Et on a fait tout ce travail de production, c'est-à-dire de recherche de subventions et de gestion de toute la logistique du film. Le film a évolué, enfin le projet a évolué aussi en fonction de ça, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune idée au départ de combien d'argent on allait pouvoir récolter, donc on s'est un peu lancé comme ça, et puis finalement on a quand même réussi à avoir assez d'argent pour les techniciens, etc., et les techniciennes. Et voilà, et donc on a fait ce travail de réalisation, et en même temps en fait on voulait absolument faire un DVD d'emblée, c'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout, qu'on n'a pas de distributeur en fait, et on ne savait pas trop quelle allait être la diffusion du film. Bon là on est super contente parce qu'il est bien diffusé, on est invité dans plein d'endroits, donc c'est chouette. Dans des lieux féministes comme ça, mais donc on savait pas trop au départ, on s'est dit bon, au moins le DVD va exister, ça va être un vrai support, et donc on a fait aussi dès le départ c'était l'idée de faire un DVD, un DVD avec des sous-titres anglais aussi.
Dans ce moment-là, la source de l'amitié, c'est de trouver d'autres personnes qui partagent les mêmes idées que nous.
This is how men control us in a way, is to divide some into the good and the bad.
Rien ne remplace ces discussions. Ça multiplie la vitesse et la progression de la pensée par 10, par 15.
Quand une action féministe est aussi réussie, on peut dire, que l'action pour la liberté de l'avortement.
Je me souviens de toute une période où, quand j'avais la moindre chose à dire, je commençais mes phrases par « je ne suis pas féministe, mais ». Le mot « féministe » était devenu une injure.
Et Beauvoir, hein, m'a dit « et puis vous avez vu, hein, j'ai utilisé votre argumentaire ». Elle reprenait l'idée que les femmes étaient opprimées matériellement, exploitées économiquement, etc. Je me souviens, quand j'étais adolescente, on disait qu'il y avait une façon féminine de frotter une allumette et une façon masculine. C'est-à-dire qu'en fait, on essayait de tout genrer, y compris ce qui ne l'était pas. Le féminisme n'a pas un chemin tracé d'avance, hein. On s'attaque à une question et puis on en découvre une autre, chemin faisant, etc. On pensait que ça s'étendrait plus et surtout que d'autres prendraient le relais. Mais maintenant, je le vois, le relais.
Le choix des mots, en fait, on voulait faire un mélange de mots en fait, qui la fasse partir sur des choses biographiques. Donc par exemple Beauvoir, vous la connaissez, sa relation avec Beauvoir, etc. Enfance, voilà. Des mots plus théoriques, donc j'ai comme genre, t'es comme travail domestique, voilà. Et des notions qui la fassent partir plutôt aussi sur des choses qui reflètent son engagement plus contemporain, donc il y a C comme communautarisme, R comme religion. Et en fait, on s'est aperçu, et ça c'est vraiment une caractéristique de sa parole et de sa pensée, c'est-à-dire qu'en fait, dans chaque lettre, on n'a pas des lettres théoriques et des lettres biographiques. C'est-à-dire qu'elle a une manière de raconter des choses théoriques en les illustrant toujours par des choses très concrètes, souvent par un sens de la métaphore d'ailleurs, qui est assez caractéristique chez elle, et en rajoutant aussi des trucs biographiques. Donc en fait, on a vraiment trois registres qui se mélangent tout le temps, en fait, dans les trois lettres, plus ou moins, mais beaucoup. Et voilà, c'est ça que j'aime bien aussi dans sa manière de parler, c'est qu'elle va dire des choses théoriques, mais en les illustrant énormément et en faisant aussi, enfin, en dévoilant aussi des pans de l'histoire du féminisme, voilà, des dernières décennies, et de sa trajectoire à elle. Et ça, c'était aussi une intention du « je ne suis pas féministe, mais », c'est-à-dire qu'on ne voulait pas, bon voilà, on voulait mêler privé et politique, si vous voulez, mais on ne voulait pas partir de l'enfant, on ne voulait pas faire un truc chronologique, donc il y a l'enfance, et puis après, etc., etc. On voulait aussi le mêler à chacun des quatre volets du film. Parce qu'on voulait vraiment aussi, et je trouve que l'oral est bien pour ça, c'est-à-dire rendre aussi plus, comment dire, ça fait partie du projet du film, mais rendre aussi plus accessible, enfin vraiment diffuser la manière dont elle conçoit le concept de genre, en articulant la question de la classification, hein, la question de la classification binaire homme et femme, et la question de la hiérarchisation, qui pour elle en fait est indissociable. En fait, c'est un peu compliqué, quoi, c'est un peu abstrait, et donc dans Genre précède le sexe, elle revient longuement sur ça. Voilà. Donc ça c'est en bonus, et les autres bonus, en fait on a récupéré les rushs qui avaient été filmés pour le film de Carole Roussopoulos, Debout, je sais pas si vous avez vu ce film, et c'est des rushs inédits qu'on a récupérés, on en a mis un certain nombre aussi dans le DVD.
Alors le communautarisme, dans la vision française, c'est le fait que des gens qui sont discriminés, sur lesquels il y a beaucoup de préjugés, à qui on ne donne pas des chances égales, etc. Ces gens-là, qui ont souvent été mis dans des mêmes quartiers, ces gens-là se fréquentent et se parlent. Ça, c'est du communautarisme, c'est pas bien, ça veut dire qu'ils veulent se séparer de la société globale. Et au lieu d'aller chercher des gens bien vus, des gens ayant des privilèges, et par exemple, dans le cas des Noirs et des Arabes, d'aller chercher des Blancs, de les tirer par la manche pour les faire venir discuter avec eux, ils se parlent entre eux. Et ça, c'est du communautarisme.
Moi, je me demandais, tu disais que tu l'avais rencontré, que vous vous étiez rencontré en 2003, donc toujours sur la question du voile. À Paris, vous aviez créé un collectif, je crois, qui s'appelait Tumultueuse, c'est ça? Non, c'était pas ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, comment vous êtes organisé en fait autour de la question? Bah, le collectif École pour tous et pour toutes, je crois qu'il existait d'ailleurs avant que Christine le rejoigne. Hein. C'est un collectif qui a été constitué par des militants et des militantes venant d'horizons assez différents, qui se sont mobilisés contre ce projet de loi, en fait, en 2003. Et puis, il y a eu la création du collectif des féministes pour l'égalité, dont Christine et Zahra Ali étaient présidentes à sa création, qui est un collectif féministe qui existe toujours, donc non mixte, c'est-à-dire qu'un collectif de femmes, mais avec des femmes musulmanes ou pas musulmanes, des femmes musulmanes portant foulard, des femmes musulmanes ne le portant pas, et qui a essayé d'incarner, avec d'autres groupes aussi, un féminisme justement se distinguant du féminisme, pour le dire vite, ni soumise, qui était en train de se mettre en place et de devenir le féminisme visible dans l'espace public, c'est-à-dire un féministe reposant sur l'idée que les violences faites aux femmes, le sexisme, étaient avant tout le fait de certaines populations, de certains territoires, hein, donc des quartiers d'habitat social, des immigrés, de leurs descendants, des musulmans, etc. Ce serait au sein de cette population que la violence faite aux femmes serait la plus... Ce serait même là où, en fait, il y aurait un sexisme fondamental. Et donc face à ce discours qui a pris quand même énormément de place, donc au cours des années 2003, 2004 et des années suivantes, il y a eu la tentative de la part d'autres groupes féministes dans toute la France, ici aussi je crois, de créer un féminisme différent, un féminisme antiraciste, un féminisme inclusif, et plein de personnes y ont participé, et Christine aussi. Je crois que c'est un de ses apports importants aussi, ça a été l'article qu'elle a écrit aussi dans Nouvelle Question Féminisme, où elle expliquait, elle avançait l'idée, où elle défendait l'idée que le combat antiraciste et le combat féministe sont pas deux combats contradictoires. Et qu'en fait, se battre contre la loi d'interdiction du foulard était en fait un combat à la fois antiraciste et un combat féministe. Hein, parce que c'était ça le piège qui nous était tendu, en fait, c'était de dire soit on défend les femmes, soit on défend, en fait, on est antiraciste. Et non, et je crois qu'il y a eu un apport important justement à ce moment-là de dire non, en fait, de justement revendiquer un féminisme qui est à la fois un féminisme antiraciste. Enfin, ce qui devrait être, hein, mais malheureusement.
Une chose que le féminisme n'a pas encore fait, c'est de dire clairement que, ça commence à être dit, mais d'une façon assez timide, que les hommes ont des privilèges et que, en effet, il va falloir les abolir. C'est-à-dire que les hommes ont à perdre, parce que pour l'instant, ça a toujours été les femmes vont gagner des choses, mais personne ne va perdre à l'affaire. Merci. Please.
n'es pas mon propriétaire. Voilà, on finit cette chanson, on finit cette petite bulle d'air qui nous remet un peu les idées au clair, que voilà, il y a des choses à faire dans ce monde malgré l'état d'urgence. Il y a des tas d'urgences, comme dira l'autre, et donc retour au social, parce que pendant ce temps-là, il y en a qui bossent. Alors, les goudières ont payé le prix fort devant une justice même pas d'urgence, hein, 9 mois de prison pour s'être battu pour leur taf. Et les autres nouvelles sur le front social ne sont pas des plus réjouissantes. Donc, quand on a une grève victorieuse sous la main, on en parle. Alors, on en parle un peu grâce à l'actu des luttes de Fréquence Paris Pluriel. Vous aurez toutes les infos en début de reportage qui vont nous parler, ou qui vont laisser parler d'ailleurs les postiers de Neuilly qui ont été en grève pendant 82 jours. Hein. 82 jours. Alors qu'on est à 87 jours de l'état d'urgence, ils avaient juste commencé, mais juste avant, parce que ça s'est arrêté le 19 janvier. Donc, vraiment, ils ont fait ça là-dedans, ils n'ont pas levé la grève parce que c'était l'état d'urgence et parce qu'il fallait se réunir sous la bannière de l'État. Non, ils ont continué, ils ont été déterminés et ils ont réussi à signer un protocole de fin de conflit avec la direction de la Poste. Et vous allez voir qu'ils ont réussi à obtenir des choses qu'on leur disait depuis le début, que c'était impossible et que là, vraiment, c'était automatique et qu'on ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien faire et pourtant, ils l'ont fait. Allez, on part, c'est l'actu des luttes et c'est la fin du front du lundi. On vous attend à 14h dimanche prochain pour se voir et puis sinon, ça sera sur l'antenne, ça sera les 92.2 de Canal Sud, ça sera à 12h30 lundi prochain. En tout cas, dimanche 14h à Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril pour nous voir et en attendant les postiers en lutte de Neuilly.